Chapitre 10. Le premier été se passa dans l'attente pour Ifemelu. La véritable Amérique, se disait-elle, était juste au détour du chemin. Même les jours se glissant l'un dans l'autre, limpides et langoureux, le soleil s'attardant tard dans la journée, semblait attendre. Sa vie avait un aspect dépouillé, une austérité exacerbée, sans parents, sans amis et sans foyer, sans les repères qui faisaient ce qu'elle était. Ainsi elle attendait, écrivait de longues lettres détaillées à Obinze, l'appelait au téléphone de temps en temps, des appels brefs, car tante Uju disait qu'il fallait économiser la carte de téléphone, passait son temps avec Dike. Ce n'était qu'un enfant, mais elle avait avec lui une affinité proche de l'amitié. Ils regardaient ensemble ses dessins animés préférés, les Razmoquettes et Franklin. Il lisait des livres, et elle l'emmenait jouer avec les enfants de Jen. Jen habitait l'appartement voisin. Elle et son mari, Marlon, étaient originaires de la Grenade et parlaient avec un accent mélodieux, presque chantant. « Ils sont comme nous. Il a un bon travail et de l'ambition, et ils donnent des fessées à leurs enfants », disait tante Uju d'un air approbateur. Ifemelu et Jen rirent quand elles découvrirent à quel point leurs enfances avaient été similaires à la Grenade et au Nigeria, avec les romans d'Enid Blyton, des professeurs et des pères anglophiles qui adoraient le World Service de la BBC. Jen n'avait que quelques années de plus qu'Ifemelu. « Je me suis mariée très jeune. Tout le monde voulait Marlon. Comment aurais-je pu dire non ?» dit-elle, riant à moitié. Elle s'asseyait sur le perron de l'immeuble et regardait Dike et les enfants de Jen, Elisabeth et Junior, pédaler sur leur vélo jusqu'au bout de la rue et revenir. Ifemelu criait souvent à Dike de ne pas aller plus loin. Les enfants poussaient des cris, les trottoirs de ciment luisaient sous le soleil brûlant, et la quiétude de l'été était parfois rompue par les flots de musique tonitruante qui enflaient puis retombaient au passage des voitures. « Tout doit te paraître encore très étrange, » dit Jen. Ifemelu hocha la tête. « Oui. » Un marchand de glace dans sa camionnette fit son apparition dans la rue, accompagné d'une mélodie tintinnabulante. « Tu sais, c'est ma 10e année ici, et j'ai l'impression d'être encore en train de m'adapter, » dit Jen. « Le plus dur est d'élever mes enfants. Regarde, Elisabeth, je dois faire très attention avec elle. Si tu ne fais pas attention dans ce pays, tes enfants deviennent on ne sait quoi. C'est différent chez nous parce qu'on peut les contrôler. Ici, non. » Jen avait un air inoffensif, avec son visage ordinaire et ses petits bras courts, mais sous son sourire avenant perçait une inflexible vigilance. « Quel âge a-t-elle ? 10 ans ?» demanda Ifemelu. « 9 et c'est déjà une sacrée comédienne. Nous dépensons beaucoup d'argent pour qu'elle aille dans une école privée, parce que, ici, les écoles publiques sont nulles. Marlon dit que nous allons bientôt nous installer en banlieue pour qu'il puisse aller dans de meilleures écoles. Sinon, elle va commencer à se comporter comme les Noirs américains. Que veux-tu dire ? Ne cherche pas, tu comprendras avec le temps, dit Jen, et elle se leva pour aller acheter des glaces aux enfants. Ifemelu attendait avec impatience le moment de s'asseoir avec Jen dehors, jusqu'au jour où Marlon revint du travail et lui dit dans un murmure rapide, pendant que Jen était partie chercher de la citronnade pour les enfants, « Je pense souvent à toi. Il faut que je te parle. » Elle ne dit rien à Jen. Jen ne le tiendrait jamais pour responsable de quoi que ce soit, son Marlon à la peau noisette que tout le monde voulait, et Ifemelu commença à les éviter tous les deux, inventant des jeux de société compliqués auxquels Dike et elle pouvaient jouer à l'intérieur. Un jour, elle demanda à Dike ce qu'il avait fait à l'école avant l'été, et il répondit « Des cercles ?» Ils s'asseyaient par terre en rond et échangeaient leurs objets favoris. Elle fut atterrée. « Tu sais faire une division ?» Il la regarda d'un air bizarre. « Je suis seulement en cours préparatoire, cause. Quand j'avais ton âge, je savais faire une division simple. » Elle finit par se convaincre que les enfants américains n'apprenaient rien à l'école primaire. Conviction qui se renforça quand il lui dit que sa maîtresse distribuait parfois des coupons de devoir. Si vous obteniez un coupon de devoir, vous aviez droit à un jour sans devoir. Des cercles, des coupons de devoir, quelle serait la prochaine ineptie ? Elle se mit donc à lui enseigner les mathématiques. Elle disait mat comme en anglais, et il disait mat comme en américain, si bien qu'ils convinrent de ne pas abréger le mot. Aujourd'hui, elle ne pouvait se rappeler cet été sans penser aux longues divisions, au front de Dickey plissé par l'incompréhension, à la façon dont elle hésitait chaque fois entre le chantage ou l'engueulade. « Bon, essaye une fois encore et tu pourras avoir une glace. Tu n'iras pas jouer tant qu'elles ne seront pas justes. » Plus tard, quand il fut plus grand, il disait qu'il avait trouvé les mathématiques faciles à cause de cet été de torture. « Tu veux sans doute dire cet été de tutorat ?» Une réplique devenue une plaisanterie familière qu'il réservait de temps en temps comme une nourriture réconfortante. Ce fut aussi son été culinaire. Elle aimait ce qui ne lui était pas familier. Les hamburgers de McDonald's et le goût acide des cornichons quand on les croquait, une nouvelle saveur qu'elle appréciait un jour et détestait le lendemain, les burritos que rapportait tante Uju à la maison, imbibés de sauce pimentée, et le salami épicé qui lui laissait un voile de sel dans la bouche. Elle était déconcertée par la fadeur des fruits, comme si la nature avait oublié de donner du goût aux oranges et aux bananes, mais elle aimait les regarder et les toucher, parce que les bananes étaient si grosses, d'un jaune si régulier, qu'elle leur pardonnait leur peu de saveur. Un jour, Dickey dit « Pourquoi tu fais ça? Manger une banane avec des cacahuètes? C'est comme ça qu'on fait au Nigeria. Tu veux essayer? Non, dit-il d'un ton ferme. Je ne crois pas que j'aime le Nigeria à cause. » Les glaces, heureusement, avaient le goût qu'elle connaissait. Elle piochait directement dans les boîtes en plastique géantes du congélateur, deux pour le prix d'une, en retirait des boules de vanille et de chocolat, tout en regardant la télévision. Elle suivait les séries qu'elle avait regardées au Nigeria, Le Prince de Bel-Air, Campus Show, et en découvrait de nouvelles qu'elle ne connaissait pas, Friends, Les Simpsons, mais c'était la publicité qui la fascinait. Elle enviait les existences qu'elle dépeignait, des vies baignant dans la félicité, où tous les problèmes étaient brillamment résolus grâce aux shampoings, aux voitures et aux plats cuisinés, et dans son esprit, elle se confondait avec la véritable Amérique, l'Amérique qu'elle découvrirait seulement à l'automne, quand elle irait à l'université. Au début, les nouvelles du soir la laissèrent perplexe, avec leur litanie d'incendie et de fusillade, car elle était habituée à la télévision officielle nigériane où des officiers de l'armée gonflés d'importance inauguraient des routes ou faisaient des discours. Mais en regardant jour après jour des images d'hommes qu'on emmenait menottes au poignet, de familles éplorées devant les restes calcinés de leur maison, d'épaves de voitures accidentées après une poursuite de la police, de vidéos floues de vols commis dans des boutiques, sa perplexité se transforma en inquiétude. Elle était prise de panique quand elle entendait un bruit près de la fenêtre, quand Dickey allait trop loin à bicyclette dans la rue. Elle cessa de sortir la poubelle à la nuit tombée parce qu'un homme armé pouvait se cacher dehors. Tante Uju dit en riant « Si tu continues à regarder la télévision, tu vas croire que ces choses-là arrivent tout le temps. Sais-tu à quel point les crimes sont nombreux au Nigeria? N'est-ce pas parce qu'ils ne sont pas comptabilisés comme ils le sont ici ?»